Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Michel Franck.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du Théâtre des Champs-Élysées depuis septembre 2010. C'est
Absolument.
Là que tout a commencé. Et l'avantage de votre mandat, c'est qu'il se déroule avec une saison 2012-2013. Et qui dit 2013 dit l'année du centenaire, puisque c'est le 30 mars 1913 pour être précis.
31,
voilà. A ouvert ses, le Théâtre des Champs-Élysées a ouvert ses, ses portes. La musique qu'on y jouait, c'était du Berlioz. Et c'est aussi presque un double anniversaire, puisque quelques mois plus tard, dans cette première saison du TCE, se créait le Sacre du Printemps. Alors, peut-être qu'avant, évidemment, d'évoquer tout ça, c'est votre troisième saison qui commence. Mm-hmm. Quel bilan un peu vous tirez des deux premiers épisodes?
Je ne sais pas si c'est à moi de le tirer ou aux autres de faire des constats. J'ai essayé de respecter ce qu'est le Théâtre des Champs-Élysées, de respecter le travail de mes prédécesseurs, et notamment de Dominique Meyer, et puis d'y ajouter ma patte personnelle, c'est-à-dire un petit peu plus d'opéra scénique, c'est-à-dire que maintenant nous sommes à 5 productions scéniques contre 3 précédemment, une ouverture vers le répertoire du bel canto, une ouverture vers l'opéra contemporain, mais bien sûr toujours le maintien des fondamentaux du théâtre, à savoir Mozart, bien sûr, Rossini, et puis le répertoire baroque. Voilà le bilan que je peux en tirer. Je pense que les saisons se déroulent bien, le public est fidèle, et les résultats sont conformes à mes objectifs, ce qui est déjà une grande satisfaction.
Vous étiez déjà un acteur, on va dire, majeur de la vie musicale du concert classique à Paris avant de rentrer au TCE, notamment en travaillant avec Janine Rose et puis avec, je pense, plein d'autres activités. Qu'est-ce que vous avez appris de ces deux premières saisons que vous ne saviez pas ou vous connaissiez mal avant, justement ?
Alors le domaine que je connaissais le moins, parce qu'en tant que producteur privé, c'est évidemment un domaine trop risqué financièrement, c'est l'opéra scénique. On avait fait un petit peu avec Janine Rose, on avait fait venir notamment en 1997 la trilogie Mozart d'Aponte avec Jean-Claude Magloire, mais c'était grosso modo un achat de spectacles déjà montés. Donc le monde de l'opéra scénique que je connaissais très bien, mais je n'avais jamais travaillé dans ce domaine, a été pour moi une découverte et un apprentissage. Discuter avec un metteur en scène, choisir des metteurs en scène, c'est pas la même chose quand on va au spectacle et qu'on est simplement critique ou qu'on donne un avis personnel, et quand tout d'un coup on doit choisir soi-même un metteur en scène pour une œuvre qu'on a envie de monter. Donc voilà, tout ce travail du scénique est un travail important que j'ai accompli. C'est effectivement ma troisième saison, mais j'ai été nommé, comme on sait dans ces métiers, on est nommé 2 ans ou 3 ans avant la première saison, pour le temps de la préparation. Donc c'était un gros travail de préparation. Idem d'ailleurs avec les orchestres, puisque en tant que producteur privé, là aussi, les enjeux financiers sont trop importants pour prendre de gros risques. Je connaissais certains directeurs d'orchestre, j'ai dû approfondir ma relation avec beaucoup d'autres au fil de ces 5 années maintenant, depuis que j'ai été nommé.
Est-ce que tout ça a eu un impact sur le mélomane que vous êtes ? Ou pas vraiment, finalement vos...
Ça n'a pas changé mes goûts.
Vos goûts n'ont pas changé.
Mes goûts sont toujours aussi éclectiques. Et je ne peux pas dire d'ailleurs que j'ai de préférence quand on me demande quelle est la musique que tu emporterais sur une île déserte. C'est une question à laquelle je n'ai pas envie de répondre parce que voilà, j'essaye en général, quand j'écoute de la musique, ce qui m'arrive assez rarement chez moi, pour être tout à fait honnête, j'essaye de choisir en fonction de mon goût du moment. Donc ça peut être aussi bien de la variété, de la musique brésilienne, que de la musique de chambre, du lead ou de l'opéra. Ça dépend du moment et je ne peux pas dire que j'ai une préférence.
Alors, on va prendre la machine à remonter le temps, donc mars 1913. Mmh. D'où vient ce théâtre? Qu'est-ce qu'il était avant? Qui l'a monté? Qui a décidé?
Ce théâtre n'existait pas. C'est un monsieur qui s'appelle Gabriel Astruc, qui était un riche indépendant, qui aimait la musique, qui était mélomane, qui a décidé d'ouvrir un théâtre qui serait un théâtre éclectique, puisqu'il devait regrouper, ce qui est le cas encore aujourd'hui, une salle de théâtre parlé et une salle pour la musique et de la musique en tout genre. Avant, il y avait à l'époque à Paris des salles de concert et des salles d'opéra. Il n'y avait pas une espèce de lieu où tous les genres de la musique classique et du théâtre pouvaient être regroupés, et ça a été son objectif. Alors le théâtre s'appelle Théâtre des Champs-Élysées parce que le premier terrain sur lequel Gabriel Astruc avait dévisé se trouvait sur les Champs-Élysées, pas loin du théâtre Marigny. Pour des raisons liées à la municipalité, si je puis dire, il n'a pas pu acquérir ce terrain. C'est donc reporté sur l'avenue Montaigne, mais il a gardé le nom de Théâtre des Champs-Élysées. Et ce qui est formidable, c'est que 100 ans après, les fondamentaux de Gabriel Astruc sont toujours là, c'est-à-dire que...
Plus que jamais, même, on pourrait dire, d'une certaine manière.
Oui, tout autant qu'en 1913.
Même sur l'air du temps aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment quelque chose de précurseur par rapport à programmer comme ça, d'avoir une vision de l'art assez éclectique.
C'est une salle tout à fait particulière. Alors déjà, on peut parler de bâtiment. Le bâtiment qui avait la propriété de la Caisse des dépôts depuis 1970 est un bâtiment qui contient trois salles. Les gens ne font pas forcément l'amalgame avec la Comédie et le studio des Champs-Élysées, qui sont les deux salles de théâtre, mais qui font partie du bâtiment. Et puis la grande salle qui est dédiée à la musique classique et à l'opéra, qui s'appelle le Théâtre des Champs-Élysées, comme son nom ne l'indiquerait pas, a priori, puisque théâtre ne fait pas forcément penser à musique. Mais dès sa création, dès 1913, Gabriel Astruc a voulu qu'il y ait à la fois de l'opéra scénique et des concerts. Et ça en fait une salle tout à fait particulière dans le monde entier, puisqu'en général, on est soit l'un, soit l'autre. Et depuis 100 ans, ce principe de base est resté vraiment celui du Théâtre des Champs-Élysées, ce qui rend les choses assez compliquées pour nous, techniquement, et même acoustiquement, puisque les desiderata de l'opéra scénique, les implications techniques de l'opéra scénique, bien sûr, ne sont pas du tout les mêmes de celles du concert.
Alors si Gabriel Astruc était encore de ce monde, il serait sans doute surpris qu'on soit autour de ces micros pour parler de lui, puisque le théâtre a fait faillite quelques mois seulement dès novembre. Sa programmation éclectique, avant-gardiste, etc., malheureusement, n'a pas porté ses fruits. Racontez-nous cela un peu.
Elle a porté ses fruits, ça a été un événement absolument incroyable, l'ouverture du Théâtre des Champs-Élysées, mais la programmation était tellement ambitieuse, et puis on était à la veille de la guerre de 14-18, donc les conditions économiques n'étaient pas des plus favorables, et effectivement il a fait faillite dès le mois de septembre, comme vous venez de le dire. Mais après la guerre, dès 1919, le théâtre a rouvert et a continué à briller de tous ses feux. Mais c'est vrai que la première saison a été une espèce de feu d'artifice, et j'espère, au travers de la saison 2012-2013, en retracer quelques éléments importants, notamment, vous avez cité Berlioz pour la soirée d'inauguration, avec Benvenuto Cellini, que nous retrouverons dans le cours de la saison 2012-2013.
Alors parlez-nous justement de cette première saison du TCE, autre évidemment en dehors, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu focalisé sur le sacre, mais il se passait d'autres choses. Quels étaient les compositeurs qu'on pouvait entendre lors de cette première saison?
Il y avait Berlioz, il y avait Rossini, il y avait Strauss, il y avait Beethoven, il y avait Fauré, il y a eu la création, pas tout à fait la création, parce que ça avait été créé une semaine avant à Monaco, mais du seul opéra de Fauré, Pénélope, que nous reprendrons d'ailleurs en juin 2013 avec Roberto Alagna et Antonacci dans les rôles principaux. Il y a eu énormément de compositeurs de musique française, Debussy, Ravel, Fauré, Poulenc, Dindy. Voilà, il y avait déjà un très grand éclectisme et de la modernité, puisque tous les compositeurs français que je viens de citer étaient des compositeurs vivants. Et puis, bien sûr, le fameux Sacre du printemps de Stravinsky, le 29 mai, qui a été le scandale que l'on connaît tous et qui encore aujourd'hui marque les esprits quand on parle du début du XXe siècle pour la musique classique.
En quoi, justement, cette œuvre, alors évidemment, il y a le côté, l'aspect formel de l'œuvre, la révolution que cette œuvre à imposer dans le monde de la musique, mais comment justement elle a été concrètement vraiment perçue par les Parisiens, par ceux qui étaient présents, par tous les acteurs du monde musical en mai 1913.
Je pense que la musique a beaucoup choqué par sa violence.
Il y avait Nijinsky qui était évidemment aussi.
Et puis il y avait la chorégraphie de Nijinsky. Il n'était pas sur scène. Il avait chorégraphié. Il était d'ailleurs. Il y avait un tel brouhaha dans la salle, un tel tohu-bohu, comme le disaient les critiques à l'époque, que Nijinsky était en coulisses et essayait de donner des indications à ses danseurs parce qu'il n'arrivait plus à entendre la musique. Mais je pense que la chorégraphie de Nijinsky est aussi une bonne partie du scandale, puisque c'était une chorégraphie extrêmement sensuelle et extrêmement terrienne qui a beaucoup choqué les gens de l'époque. Mais Diaghilev, qui était le directeur des ballets russes, qui présentait donc ce Sacre du printemps dans le cadre de sa saison des ballets en 1913, a compris l'importance de l'œuvre, puisqu'en 1920, il y a eu une nouvelle chorégraphie par Massine, qui dansait à ce moment-là et chorégraphiait les ballets, et ça a été un grand succès en 1920.
Alors, une œuvre tellement multifacette, on pourrait dire que vous la revisitez de différentes manières pour cette saison 2012-2013. Il y aura trois chorégraphies et trois concerts du Sacre.
Absolument, vous êtes fort bien documenté.
Bien
je dirais presque 6,5 ou 7. Il y a trois Sacres chorégraphiés. Donc j'ai voulu que les gens puissent revoir le Sacre de 1913, le Sacre chorégraphié par Nijinsky, remonté par Millicent et Hudson. Et puis j'ai choisi, ça c'est subjectif, le Sacre qui me semblait le plus important de la deuxième partie du XXe siècle et qui, à mon sens, était celui de Pina Bausch. J'ai hésité entre celui de Maurice Béjart et celui de Pina Bausch. Maurice Béjart a fait basculer le monde de la danse dans ce qu'on appelle maintenant la danse contemporaine, mais celui de Pina Bausch était pour moi un plus gros choc émotionnel. Donc c'est celui-là que les spectateurs pourront voir en juin 2013. Et puis, pour un Sacre du XXIe siècle, j'ai que passé une commande à Sacha Valls pour avoir un nouveau Sacre. Alors, scandale ou pas, rendez-vous le 29 mai, puisque dans les trois premières soirées des célébrations du centenaire, 29, 30 mai et puis 1er juin, nous aurons dans la même soirée le Sacre de Nijinsky et le Sacre de Sacha Valls. Donc nous aurons deux fois le Sacre dans la même soirée. Et puis outre ces trois Sacres chorégraphiés, il y a trois Sacres symphoniques, dont un avec l'Orchestre National de France, qui est notre orchestre résident au Théâtre des Champs-Élysées, dirigé par Daniel Egatti, l'Orchestre de Rotterdam avec Yannick Nézet-Seguin, le Philharmonia avec Esa-Pekka Salonen. Donc trois Sacres symphoniques, puisque c'est une œuvre maintenant du répertoire des grands orchestres qui devrait faire sensation. Et puis il y a Kram Kam un peu plus tard dans le mois de juin qui présentera un nouveau spectacle qui est autour du Sacre du Printemps de Stravinsky. Donc ça, c'est encore une inconnue, mais c'est un spectacle qui est dédié au Sacre du Printemps. C'est pour ça que je dis 6,5 voire 7, on verra en fonction de la musique du spectacle d'Akram Kam.
Comment on construit justement une saison dite anniversaire ?
Ça a été une grande question pour moi et dès ma nomination en 2008, puisque je savais que cet anniversaire interviendrait au cours de mon premier mandat. Et puis, j'ai laissé le temps faire son œuvre, j'ai lu beaucoup de choses. Et...
Vous saviez ce que vous ne vouliez pas faire ? Ou ce que vous vouliez faire. Comment tout ça s'est défini dans votre...
Les choses se sont clarifiées. J'ai trouvé vraiment trois axes qui me semblent être les fondamentaux du Théâtre des Champs-Élysées au cours de ces 100 ans. C'est la diversité, la modernité et la continuité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui marque le Théâtre des Champs-Élysées au plus profond de son marbre. Et donc, j'ai voulu faire une programmation qui nous permette de retrouver ces trois éléments. Et bien sûr, il me semblait vital de faire un grand hommage au Sacre du Printemps, on vient d'en parler, et il me semblait aussi important de rendre un hommage à Gabriel Astruc, c'est-à-dire de mettre quelques œuvres phares de sa première saison. Donc voilà, j'ai composé ma saison 2012-2013 avec un peu tous ces éléments, et en espérant avoir réussi et pouvoir marquer un petit peu ce passage du Théâtre des Champs-Élysées dans son deuxième centenaire.
Vous mettez en exergue de votre édito de la brochure, un proverbe russe: pour devenir centenaire, il faut commencer jeune.
Oui, absolument. Il faut prendre son temps. J'ai commencé en 2008. Donc, comme je vous l'ai dit, dès que j'ai été nommé à la direction du théâtre, j'ai commencé à y réfléchir. Ça m'aura pris 5 ans pour faire naître une saison. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter. Il faut sentir les choses. Il faut avoir de l'inspiration. Et puis, trouver des axes. En début de saison, nous avons une trilogie Médée, la Médée de Charpentier, la Médée de Cherubini, la Médée du Sapin. Pour moi, elle est importante, même si Médée n'est pas, à proprement parler, une œuvre centenaire. Je pense, en tout cas, une œuvre qui a marqué le théâtre dans ces 100 dernières années. Je pense qu'en elle-même, elle résume les trois fondamentaux que j'ai cités: diversité, modernité, continuité. La diversité, bien sûr, puisque ces trois compositeurs, ce qui balaye 4 siècles, Charpentier, Cherubini et du Sapin. La modernité, bien sûr, avec du Sapin, mais aussi avec les metteurs en scène comme Varlikovski ou Sacha Valls. La fidélité à des artistes comme Emmanuel Haïm ou comme Christophe Rousset ou comme Stéphane Degout, Laurent Naori, qui sont présents dans les distributions. Cette trilogie, pour moi, symbolise un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mise en ouverture de saison, ce que pourrait être une définition de ces 100 années d'existence du théâtre.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être difficile de vous exprimer avec la position que vous avez, mais que justement le côté très éclectique et très très ambitieux de Gabriel Astruc finalement se perd un petit peu aujourd'hui? Alors, pas évidemment, j'imagine, pour l'institution que vous dirigez, mais dans la globalité de l'offre qui est proposée du spectacle vivant à Paris ou pas?
J'ai pas du tout ce sentiment, c'est peut-être le public, les spectateurs qui pourraient vous répondre mieux que moi. Je pense que le théâtre des Champs-Élysées a une vraie identité et que nos abonnés ou nos spectateurs occasionnels savent vraiment ce qu'ils viennent y trouver. Je pense que c'est un peu prétentieux si c'est moi qui le dis. Il y a un terme qui définit quand même la programmation, c'est la qualité. Et puis une espèce de diversité qui fait qu'on a finalement beaucoup de spectateurs qui reviennent très fréquemment dans la saison parce qu'ils savent qu'il y a une grande variété au théâtre, ça leur permet dans un même lieu de voir quand même tout genre de musique ou d'entendre tout genre d'artistes. Il y a aussi dans la diversité un mélange d'artistes extrêmement important. Il y a des artistes effectivement très confirmés qu'on pourrait appeler des stars comme Roberto Alagna que j'ai cité, ou Rolando Villazone, ou Juan Diego Flores, ou Cecilia Bartoli, ou Hélène Grimaud si on cite des pianistes. Et puis il y a des jeunes artistes dans lesquels on croit, je dis on croit parce que Dominique Meyer avait le même cheminement artistique que le mien, c'est-à-dire des jeunes artistes sur lesquels on fonde des espoirs et qu'on essaye de fidéliser et d'accompagner. Donc il y a ce mélange des genres et ce mélange d'artistes qui fait, je pense, in fine, une identité au théâtre.
Renouveler le public, c'est un peu une mission, un devoir ?
C'est un devoir. C'est un devoir de faire comprendre à des gens que la musique classique n'est pas, des gens non initiés en tout cas, que la musique classique n'est pas réservée à une élite. Souvent, la musique classique pour les
c'est
gens.
C'est difficile justement de lutter un peu contre ces clichés qui sont parfois. Pour certains, c'est une réalité ou pas ?
Ce qui est difficile, c'est de faire venir les gens dans la salle. Une fois qu'ils sont dans la salle, ils sont conquis. Donc on s'y emploie par différents moyens. Donc on pourrait employer le mot de marketing, que je n'aime pas beaucoup, mais qui est quand même une réalité de notre...
Et quand on s'était rencontrés la dernière fois en 2010, vous aviez justement évoqué l'emprise de plus en plus grandissante du marketing dans le monde du spectacle vivant.
Dans le monde du spectacle vivant et surtout dans, oui. dans le monde des compagnies de disques qui marketaient effectivement certains artistes parce qu'ils en avaient besoin pour la vente commerciale. Mais on essaye effectivement de conquérir des nouveaux publics avec des accroches qui ne sont pas forcément musicales. Parfois un metteur en scène peut être un très bon moyen de faire venir du public. Parfois un acteur, parfois un scénographe. Dans le Médée de Charpentier dont j'ai parlé tout à l'heure, on a demandé, en travaillant avec Pierre Audi, le metteur en scène, on a demandé à un artiste plasticien de faire les décors. Et pour moi, c'était important. Ça sera d'ailleurs le cas aussi pour La Favorite un petit peu plus tard dans la saison, au mois de février, La Favorite de Donizetti. J'avais envie de refaire ce qui se faisait énormément au début du siècle, c'est-à-dire que c'était des peintres, des artistes plasticiens qui faisaient les décors, voire les costumes d'ailleurs de certains spectacles. On a bien sûr en tête pour les ballets russes et les ballets suédois, Picasso, Braque, Derain, Matisse et d'autres. Donc voilà, c'est Jonathan Meze qui fera les décors du Médée de Charpentier. Jonathan Meze, pour les gens qui connaissent bien l'art contemporain, c'est une sommité de la peinture, un peu provocatrice certes, mais c'est une personnalité importante du monde de la peinture à Berlin et dans le monde entier maintenant. Et par ce biais, par un certain nombre de médias aussi, des médias qui s'intéressent justement aux arts plastiques qui nous ont fait ou vont nous faire des papiers sur Jonathan Meze, on peut attirer à notre public. Et j'ai déjà un certain nombre de personnes de mon entourage que je connais qui ne sont pas du tout des férus de musique classique mais des férus d'art contemporain qui m'ont demandé des places pour le Médée de Charpentier.
C'est la même chose quand on peut avoir à l'affiche du TCE des noms comme Sacha Valls, Akram Khan ou la troupe de Binabauche par exemple.
Bien sûr. Quand on a eu au mois de février dernier, si je ne me trompe pas, Don Pasquale mis en scène par Denis Podalydès, qui n'en était qu'à sa deuxième mise en scène d'opéra, il y a évidemment eu tout un public qui est venu parce que c'était Denis Podalydès, parce que qui dit Denis Podalydès, qui est un metteur en scène et comédien assez grand public, dit des médias différents que l'on n'aurait pas nécessairement pour un spectacle ou un opéra de musique. Musique classique, voilà, on arrive à avoir un type de spectateur différent. Je me souviens, il y a de nombreuses années, quand avec Jeannine Rose, dans notre recherche aussi de développement public, on avait fait l'histoire du soldat avec MC Solar. C'est évident qu'on avait un public de MC Solar qui est venu et qui a adoré ça. Et je me souviens aussi d'une très belle expérience avec l'orchestre L'Amoureux, avec les... Ça y est, j'ai un trou de mémoire, Lirita Mitsuko, qui voulait absolument faire un concert avec un orchestre symphonique, donc avec Jean-Luc Caradec qui s'occupait à l'époque de l'orchestre L'Amoureux. On a monté ce spectacle, on a dû doubler fort de son succès, et on avait décidé qu'entre chaque groupe, il y avait 4 groupes de chansons avec les Rita, qu'entre chaque groupe de chansons, on mettrait de la musique contemporaine. 5 minutes, 10 minutes, du Arvo Pärt, du Berlioz, je ne sais plus quel était le troisième. Et je dois dire que le public qui était là, qui était évidemment un public d'Erita Mitsuko, a fait presque plus de succès aux 3 intermèdes de musique contemporaine qu'au groupe de chansons d'Erita. Comme quoi, notre bataille, c'est de faire venir le public dans la salle. Ensuite, si on a bien travaillé, si on présente un spectacle de qualité, le public peut être conquis et revenir.
Rendez-vous demain, rue du Pont Biche, ou rue du Trésor, si tu veux être riche. Dans la rue gracieuse, tu me feras des sourires, on s'embrassera, passage des soupirs. On fera notre nid, rue de l'Hirondelle, traversant joyeux la rue Pastourelle. Notre amour luira d'un feu sans pareil, rue du Roi Doré ou rue du Soleil. Après un oui, rue de l'Évangile, nous irons nous marier, soit tout près de Saint-Louis en Lille, ou bien rue des Terres aux Curés. Et Paris poète, aux joies un peu folles, lancera ses rues dans la farandole. Du bal où tous deux, à cœur contre cœur, nous irons danser sur l'air du bonheur. Écoutez, chérie, la jolie balade des rues de Paris, qui font la parade et qui nous convient à des escapades. À des escapades loin des pavés gris des rues de Paris. Paris poète, aux joies peu folles, lancera ses rues dans la farandole. Du bal où tous deux, à cœur contre cœur, nous irons danser sur l'air du bonheur.
Quinquennat coïncide avec donc le centenaire évoqué, mais aussi avec des travaux. Parlez-nous un peu de tout ce qui a été fait ces dernières années. La caméra de Cobeuse était venue visiter un peu les remises à niveau de certains matériels.
Voilà, nous sommes aux deux tiers des travaux qui ont été décidés. La première étape était de refaire la fosse, puisqu'une des premières questions que je me suis posée en arrivant dans ce théâtre, en ayant vraiment les éléments techniques, c'est comment a-t-on pu donner le Sacre du Printemps en 1913, compte tenu de la fosse actuelle qui ne pouvait contenir que 50-55 musiciens, alors qu'on sait qu'il faut plus de 90 musiciens pour interpréter le Sacre du Printemps. Et en cherchant dans les plan d'origine, on a découvert qu'il y avait des lieux de stockage à l'arrière de la scène qui s'étaient ajoutés au fil des ans. Donc la première étape a été de retrouver la fosse d'origine, qui est une fosse un petit peu à la Bayreuth, qui descend un petit peu sous le plateau, mais maintenant la fosse peut accueillir 95 musiciens, donc ça va me permettre bien sûr de donner le Sacre du Printemps, mais d'élargir le répertoire de l'opéra scénique, qui était assez limité jusqu'à présent de par la taille de la fosse. Sans trahir un secret, en décembre 2013, donc c'est la saison 2013-2014, nous aurons le dialogue des Carmélites, et le dialogue écuménique, qui a une orchestration très importante, est impensable dans la configuration de la fosse précédente. Donc ça, ça a été la première étape. La deuxième étape a été de refaire tout le plancher de scène et les dessous de scène. Je vous disais presque en préambule que c'était compliqué pour une salle comme le Théâtre des Champs-Élysées d'être à la fois une salle d'opéra et une salle de concert. C'est vrai que les dessous de scène ne sont pas du tout les mêmes pour des concerts et pour pouvoir avoir des gradins, pour permettre d'avoir différents niveaux aux musiciens d'orchestre. Pour l'opéra, il faut avoir un maximum de vide pour pouvoir faire des apparitions. Notre équipement technique était assez vétuste, donc nous avons refait tout ça en ayant malheureusement 2 mois de fermeture en plus de l'été où traditionnellement le théâtre est fermé, de début juillet jusqu'à quasiment fin novembre l'année dernière. Mais voilà, nous avons un plancher de scène tout neuf et nous avons des dessous de scène en état de fonctionnement. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape ne sera pas vraiment visible du public. Ce sont des travaux purement techniques qui vont nous permettre d'avoir un accès pour les décors beaucoup plus confortable et plus aux normes d'ailleurs de sécurité qu'il ne l'est au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça interviendra l'été prochain.
Alors, travaux, programmation, anniversaire du centenaire. Comment on met tout ça en phase avec la période actuelle, qui est quand même plutôt assez axée autour d'un mot qui est la crise? Comment on le ressent concrètement et comment on fait avec?
Alors, j'ai le Théâtre des Champs-Élysées a beaucoup de chance puisque, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la propriété de la Caisse des dépôts, qui est aussi notre mécène. Et nous avons une visibilité. Nous avions une précédente convention qui était sur 5 ans, donc qui était de 2008 à 2012, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, quand je suis arrivé, j'avais déjà 2 ans de visibilité. Et puis, nous avons re-signé avec la Caisse des dépôts une convention pour jusqu'en 2015. Donc, j'ai un budget qui m'est assuré et sur lequel je peux tabler jusqu'en 2015. Et puis, chose nouvelle, même si la période, effectivement, comme vous venez de le dire, n'est pas la meilleure, nous n'étions pas éligibles à la loi sur le mécénat pour des raisons fiscales et juridiques. C'est une chose à laquelle aussi je me suis attelé avec notre président Raymond Soubi, qui est une aide extrêmement précieuse et qui est très toujours partant pour ce qui peut favoriser le Théâtre des Champs-Élysées. Nous avons réussi à lever cette difficulté. Donc, maintenant, nous sommes éligibles au mécénat et nous commençons une recherche de mécènes à la fois au niveau des entreprises et au titre des particuliers. Et donc, même si ce n'est pas une période favorable, tout euro qui nous est donné à titre de mécénat est un euro supplémentaire qui, moi, me permet de faire une programmation d'une meilleure qualité.
Est-ce que la crise côté public, vous la ressentez aussi en termes de taux de remplissage, en termes de taux d'abonnement ?
En termes de taux d'abonnement, non. On est même en progression en termes d'abonnement. En termes de taux de remplissage, non plus. Ce qu'on constate, mais je pense que c'est un petit peu un parallèle qu'on pourrait faire avec l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire que les valeurs de grand luxe, si on veut comparer à d'autres secteurs où les valeurs très sûres se vendent très vite et très bien, c'est-à-dire que si vous mettez Cecilia Bartoli, c'est complet, quel que soit le prix, et c'est complet un an à l'avance. On a dans la saison prochaine un Fidelio avec Jonas Kaufmann et Walter Hautmeier. Il n'y a plus une place à vendre depuis le mois de juin. Et quel que soit le prix. Ça, je veux dire, le luxe, je pense que c'est pareil. Si vous allez chez Hermès, je pense que quels que soient les prix des produits chez Hermès, ils se vendent sans problème. Et je pense que la crise ne touche pas cette frange de clientèle. Pour le reste, ce qu'on constate, c'est que les ventes se font de plus en plus tardivement. Elles se font quand même, mais avec beaucoup moins d'anticipation et quasiment dans les 1 voire 2 dernières semaines avant le spectacle, c'est là que les ventes bougent, ce qui à nous donne parfois quelques angoisses, quelques cheveux blancs supplémentaires, puisqu'il peut arriver qu'on soit à la moitié de nos objectifs une semaine avant un concert, et puis finalement tout se déroule très bien et les ventes se font, mais elles se font en dernier moment, ce qui prouve que les gens attendent vraiment la dernière seconde, soit par précaution, soit pour savoir s'ils n'ont pas un impromptu qui va les obliger à répartir leur budget différemment. Et puis il y a une tendance que je n'épouse pas vraiment, parce qu'on essaye de ne pas le faire, qui est comme dans d'autres secteurs comme le tourisme, de faire dans le métier des réductions ou des prix de dernière minute. Donc il y a une frange de clientèle qui aussi se dit pourquoi acheter un mois à l'avance ou 6 mois à l'avance à 100% si on peut avoir moins 50% 3 jours avant. Donc il y a aussi une partie de cette clientèle qui attend, et comme nous ne faisons pas de réduction, sauf pour les étudiants ou les moins de 20 ans une heure avant le spectacle, et même ça a toujours été, parce que c'est une politique de la maison en faveur des jeunes, les gens finissent par acheter.
Sur l'éternel débat de l'offre de musique classique, concert classique à Paris, est-ce que ces 2 années ont eu un impact sur votre réflexion sur la problématique ? Est-ce qu'il y a finalement trop de sièges de salles de concert classique à Paris ou pas ? Et comment, justement, dans cette réflexion, vous voyez aussi, est-ce que ça a changé votre approche et votre réflexion que vous aviez sur l'arrivée prochaine de la Philharmonie ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait trop de sièges, parce que quand il y a des spectacles de qualité ou des artistes de grande renommée, l'Opéra de Paris, les deux salles de l'Opéra de Paris, le Théâtre du Châtelet, la salle Pleyel et le Théâtre des Champs-Élysées, pour ne citer qu'eux, sont complets. Donc le public, il est là. Je dirais ce qui fait défaut, c'est les artistes susceptibles de remplir des salles de 2000 places. La grande difficulté de toutes nos salles parisiennes, c'est qu'elles sont grandes.
Il n'y a pas de salle intermédiaire.
Il n'y a pas de salle intermédiaire, comme à Londres. Vous avez Wigmore Hall, par exemple, qui est une salle dont moi je rêverais pour faire une programmation avec des artistes moins connus, ou de la musique de chambre, par exemple, qui ne remplit pas, ou remplit plus, en tout cas, des salles de 2000 places. Donc, toutes nos salles, elles sont de 2000 places. Et ça, c'est difficile. Si on compare ce qui se passe dans d'autres villes dans le monde. Donc ça oblige à une programmation avec des artistes d'une certaine renommée qui sont capables de remplir quand même des salles d'une importance assez grande. Et ces artistes-là, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc la difficulté, elle est plutôt en termes d'artistes, la rivalité, qu'en termes de spectateurs.
Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on travaille dans l'univers de la musique classique, on a toujours tendance à travailler voire 2 voire 3 ans à l'avance. J'imagine que les tableaux et les cases commencent à être déjà bien remplis pour les prochaines années, l'après-centenaire. Alors sans nous révéler, j'imagine, plein de choses, peut-être des secrets, est-ce qu'il y a déjà des pistes, des orientations que vous voulez prendre pour les futures saisons ?
Écoutez, je vais essayer d'ancrer le chemin que j'ai commencé à tracer depuis maintenant 3 saisons, c'est-à-dire continuer le baroque, mais un seul titre par an, continuer l'exploration du bel canto avec un axe qui est un petit peu particulier pour pas faire concurrence, si je puis dire, à l'Opéra de Paris, pour se démarquer un petit peu d'eux. L'axe que j'ai choisi, c'est le bel canto léger et les Italiens à Paris, puisque cette année, on aura par exemple le Médée de Cherubini, on aura aussi la la Vestale dans les années prochaines. On a la Favorite cette saison. Donc voilà, il y a quantité d'Italiens de bel canto qui ont composé des œuvres pour Paris en français. Donc ça, je vais continuer sur cet axe. Et puis toujours de la musique contemporaine. Il y aura une création mondiale en 2014-2015. Il y aura un festival Rossini aussi au printemps 2014 avec trois opéras scéniques de Rossini. Et puis je continue aussi le travail entrepris sur les artistes en devenir, dont je parlais tout à l'heure, les artistes jeunes qui ne sont pas encore forcément très connus du grand public et qui pour moi sont des valeurs sûres de demain. Je ne suis pas, je ne l'étais pas d'ailleurs chez Jeanine Rose Productions non plus, je ne suis pas un one-shot man, si je puis dire. C'est-à-dire que faire un concert avec un artiste une saison et puis m'arrêter, ça ne m'intéresse pas. Je préfère miser sur certains artistes et puis les accompagner sur plusieurs années pour les faire connaître au public, en espérant bien sûr que je ne me trompe pas de cheval et que je mise sur le bon. Mais ça commence à porter ses fruits. Quand j'ai décidé de prendre dès ma première saison en résidence, par exemple, l'Orchestre de Rotterdam avec Yannick Nézet-Seguin, que personne ne connaissait. Donc c'est le premier concert était en 2010. J'ai décidé la résidence en 2008. Donc Yannick était encore tout à fait inconnu. Moi, j'avais eu la chance de l'entendre et j'étais complètement subjugué par sa fougue. Pareil pour Birmingham avec Andris Nelsons. En 2008, personne ne connaissait Andris Nelsons. Maintenant, tout le monde se l'arrache. Donc voilà, c'est des gens que je continue à accompagner. Et je continue aussi à écouter de nouveaux artistes pour avoir des coups de cœur, comme on a pu avoir avec Jeanine Rose Productions quand elle avait 15 ans avec Hélène Grimaud. Ses premiers concerts, Hélène était totalement inconnue. Comme j'ai pu avoir Jaroussky. Moi, personnellement, avec Philippe Jaroussky, quand il y a 15 ans, avec Jean-Claude Malouard, il chantait Catone et Inutica de Vivaldi en tant que sopraniste, d'ailleurs, à l'époque, et que personne ne le connaissait. Philippe, je l'ai accompagné depuis ses tout débuts. Et pour moi, c'est des satisfactions énormes. Je veux dire, j'ai plus de plaisir à découvrir un artiste comme Philippe Jaroussky ou même Grigory Sokolov, dont personne ne voulait à Paris et qui maintenant remplit les salles de façon absolument incroyable. Ça me procure plus de plaisir que de faire venir une star d'une renommée mondiale qui va effectivement remplir la salle, quel qu'en soit le prix. C'est un grand plaisir, une grande satisfaction musicale et une grande satisfaction pour le théâtre d'avoir une grande star ici présente, bien sûr. Mais à titre personnel, je préfère le travail d'investissement, de recherche d'un jeune artiste et d'investissement. Vous avez cité Philippe Jaroussky, je pourrais aussi citer Jeremy Rohrer, que j'accompagne depuis 5 ans maintenant. Et on voit le chemin qu'il a parcouru, pas grâce à moi, le chemin qu'il a parcouru grâce à son talent. Mais voilà, c'est un travail qui m'intéresse. Et puis, c'est aussi un travail très positif pour le théâtre parce que ça crée des liens de fidélité. C'est-à-dire, quand on a donné sa chance à certains artistes, c'était pareil avec Emmanuel Haïm à ses tout débuts, quand on leur a donné leur chance et qu'on a cru en eux, ils nous sont fidèles. Et ça, c'est très important. Emmanuel Haïm, l'histoire est drôle, j'avais été à un concert privé à Auvers-sur-Oise, donné par Vivendi, je crois, dans un mois de juin, avec un luxe absolument somptueux. Et j'avais écouté Nathalie Dessay. C'était il y a une dizaine d'années, ou même un peu plus, une quinzaine d'années, et Nathalie Dessay chantait son premier Handel, c'était Assis et Galatée. Et donc j'avais été pour Nathalie, et j'avais trouvé Nathalie évidemment formidable dans Assis et Galatée, mais c'était Emmanuel Haïm, qui n'avait pas encore fait son concert d'Astrée, qui l'accompagnait à l'époque. Et à l'issue du concert, j'ai félicité Nathalie, bien sûr, et je suis allé voir Emmanuel en disant, il faut absolument qu'on se rencontre, j'ai trouvé ce que vous avez fait absolument formidable. Et on s'est rencontré avec Emmanuel, et je lui ai immédiatement proposé de faire un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Et pour la petite histoire, et même deux d'ailleurs, parce qu'elle avait deux projets à me proposer qui étaient intéressants, et pour la petite histoire, elle a été absolument parfaite. Le concert d'Astrée n'existait pas encore, mais il était quand même en gestation dans sa tête. Et elle me dit, quand je suis sorti de ton bureau, je suis tombé dans les pommes. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et voilà, Emmanuel, c'est une très jolie histoire, mais c'est ce qui, moi, m'amuse et m'attire dans ce métier.
Il vous reste encore du temps, avec votre emploi du temps justement chargé, pour aller écouter, aller voir justement des jeunes pousses.
C'est la grande difficulté, parce que c'est un théâtre qui a la particularité aussi, avec plus de 220 levées de rideaux, de fonctionner avec une toute petite équipe. Nous sommes à peine plus de 50 administrations et techniques comprises, plus une trentaine de personnels d'accueil, les ouvreurs et les contrôleurs. Mais 50 pour faire tourner un théâtre, c'est très très peu. Donc ça veut dire qu'on est tous très très occupés. Et qu'en plaisantant dans le métier, on dit que dans les bonnes semaines, nous avons 35 heures de sommeil. ce qui est parfois et même exagéré. Donc c'est vrai que c'est un théâtre qui demande beaucoup de temps, beaucoup de présence, mais j'essaye de dégager du temps pour aller entendre des artistes et voir des metteurs en scène et discuter aussi avec des confrères. Je veux dire, quand je vais voir un spectacle dans un opéra à Bruxelles ou à Londres, j'ai l'occasion de discuter pendant une heure avec mon confrère, c'est toujours des moments très enrichissants parce qu'on parle du métier, on parle des artistes qu'on a entendus, on parle d'évolution des uns ou des autres, il en ressort toujours quelque chose. On parle de coproduction, puisque c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir de l'opéra, c'est de développer, en tout cas pour moi, c'est de développer ces coproductions, puisque ça nous permet de réduire sensiblement les coûts et donc d'avoir des opéras d'une meilleure qualité.
On pourra toujours aller vous défouler avec votre équipe le 5 juillet, puisque la saison se termine par un bal.
La saison se termine par un bal, effectivement, dans les choses qui m'ont semblé importantes, le 6 juillet très précisément, auquel il m'a semblé très important de rendre hommage, c'est Joséphine Baker. Il ne faut pas oublier que dans l'éclectisme du Théâtre des Champs-Élysées, les premières apparitions de Joséphine Baker, qui dans l'inconscient ou le conscient des gens est plus lié aux Folies Bergères, bien sûr, les premières apparitions de Joséphine Baker étaient au Théâtre des Champs-Élysées. Donc nous danserons le 6 juillet, nous danserons en deux parties. La première partie de 8h à minuit avec un orchestre à la Sidney Bechet, puisque les gens ne le savent pas forcément d'ailleurs, c'était Sidney Bechet qui accompagnait à ses débuts Joséphine Baker. Donc voilà, un bal, on va dire, très, très populaire. Et puis de minuit à 6h du matin, j'ai demandé à un DJ de composer une soirée musicale, mais sur des thèmes liés à Joséphine Baker. Donc là, c'est la grande inconnue, mais je pense que de minuit à 6h du matin, ça s'adressera à une autre tranche de clientèle. Comme on le disait tout à l'heure, ça permet d'élargir le public.
Bien, ben, on vous souhaite encore bon anniversaire. On rappelle que la programmation de cette saison 2012-2013 est consultable sur le site du Théâtre des Champs-Élysées. Merci Michel Franck.
Merci à vous.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.